Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 avenue de Thouars, 33 400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
De la louange et particulièrement de l'expression scénique. Alors ce matin, ils ont vraiment appliqué plein de choses et j'aimerais qu'on les encourage. Merci aux chantres et que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni pour ce qu'il fait dans l'église. Maintenant, vous pouvez vous rasseoir. Maintenant que vous avez fait le bisou à votre frère, vous pouvez vous rasseoir confortablement. L'évangéliste Victor parlait tout à l'heure et dans son discours, il disait que la semaine dernière, on a parlé des priorités du Seigneur et entre autres, on a vu la louange, l'adoration et l'évangélisation. Et ce matin, le Seigneur va nous enseigner sur l'une de ses priorités. Et je sais que Dieu a quelque chose de particulier à dire à chacun de nos cœurs et il va le faire pour l'édification de notre homme spirituel. L'homme spirituel que nous sommes, celui-là qui est à l'image de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le thème de mon enseignement ce matin est « Mesure ton niveau d'adoration ». Mesure ton niveau d'adoration. Et le texte de base de cet enseignement se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, à partir du verset 1. Apocalypse 11, verset 1. La Bible déclare, « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » De comprendre l'une des priorités du Seigneur. Et en lisant le texte d'Apocalypse 11, il y a quelque chose d'étrange dans ce passage. Lorsque le Seigneur parle, c'est Jean qui relate ce qu'il a eu comme vision dans tout le livre d'Apocalypse. Et au chapitre 11, il dit, « On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent, donc les adorateurs. » Et pendant la première fois que j'ai pu réaliser ce qui était écrit dans ce passage, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait mesurer les adorateurs. Comment est-ce qu'on pouvait mesurer le niveau d'un adorateur? Comment est-ce qu'on peut mesurer la dimension d'adoration d'une personne? Est-ce que Dieu nous a laissé des normes pour le faire? Est-ce que Dieu nous a permis aujourd'hui, avec toute l'intelligence qu'il nous a donnée, de pouvoir le faire, le réaliser? Et je crois que tout au long de cet enseignement, le Seigneur va nous donner des outils pour pouvoir mesurer notre niveau d'adoration. Et comme j'aime souvent le dire, ce n'est pas simplement les chantres qui sont censés le faire, c'est tous ceux-là qui sont appelés selon le bon plan, la bonne volonté du Seigneur. Donc tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur de tout leur cœur, reconnaître que Jésus est Seigneur, Sauveur et Seigneur de leur vie, ceux-là qui un jour se sont rendus compte réellement qu'il est mort à la croix pour nos péchés, il s'est donné entièrement pour qu'on ait la vie éternelle. Alors je fais partie de cette race d'adorateurs. Et lorsque j'étais en train de chercher le terme adorateur dans la Bible, je me suis rendu compte qu'il n'est pas cité plus de 3 fois. Parce qu'ils sont tellement rares, ils sont tellement précieux, ces adorateurs que le Père recherche, malheureusement, ils ne sont pas célèbres. Alors, j'aimerais que ce matin, en écrivant notre histoire, en écrivant notre Bible, on trouve plus de 100 adorateurs dans cette église. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je vous demande encore de faire bisous à votre voisin ou quoi? Parce que quand vous lui faites un bisou, il vous procure la joie. Hein? Tout à l'heure, là, ça ressemblait maintenant aux annonces dans la paroisse. Là, hein? Comment tu as passé ta semaine, etc. On vous a juste demandé de faire un bisou. Alléluia. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Alors, j'aimerais qu'on lise Sophonie 3. Pour démarrer concrètement notre enseignement. Sophonie 3, verset 10. Ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible doivent se dire, il y a un livre comme ça dans la Bible, Sophonie? Même le nom est bizarre. Sophonie, c'est pas très loin du Nouveau Testament là, en allant de la gauche vers la droite. Sophonie 3. Je vais lire à partir du verset 9. La Bible déclare, « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Jean 4, Jean 4, verset 23, c'est l'un des versets célèbres dans la parole de Dieu. Jean 4, verset 23, la Bible déclare, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. » Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. La première chose que j'aimerais mettre en évidence, c'est le terme adorateur dans ces deux passages que nous avons lus. Et lorsqu'on cherche la définition du mot adorateur, on trouve ce qui suit. C'est ceux qui rendent un culte à la divinité et qui aiment passionnément. C'est cela qu'on appelle les adorateurs. Non seulement ils rendent un culte, pour nous qui sommes les adorateurs du Dieu vivant. Donc, on rend un culte à Dieu, mais en plus de cela, on l'aime passionnément. Dans le passage de Sophonie, il y a un principe que le Seigneur aimerait mettre en évidence, c'est que Dieu a ses adorateurs. Il dit dans ce passage 10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Dans ce passage, le principe que j'aimerais mettre en évidence, c'est que Dieu, de la même manière que le diable dans le monde aujourd'hui est en train de susciter des adorateurs qui lui rendent un culte, parce que le diable, pour certains, est une divinité. De la même manière, Dieu, dès le commencement, a ses adorateurs. Et dans ce passage, il fait connaître qu'il a ses adorateurs et il fait connaître que les siens lui apporteront des offrandes. Mes adorateurs m'apporteront des offrandes, dans le passage de Sophonie. Le deuxième principe se trouve dans celui de Jean. L'heure est venue, c'est maintenant, c'est le moment, c'est la saison où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans ce passage, le Seigneur veut nous enseigner une chose, c'est qu'il existe de vrais adorateurs. Et ces vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Autre chose dans ce passage, c'est que la Bible nous enseigne que nous devons passer à une autre dimension de notre adoration. Et cette dimension, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. On peut comprendre alors les attentes que Dieu a. C'est quoi les priorités? On parle de priorités depuis à peu près 2-3 semaines. Quelles sont les attentes du Seigneur par rapport à l'adoration? Quand on lit les deux passages de Sophonie et Jean, on se rend compte que Dieu sanctifie un peuple, il le met à part, comme la Bible dit dans Sophonie 3:9, je leur donnerai au peuple des lèvres pures. Il sanctifie un peuple, il le met à part et il lui dit, vous serez mes adorateurs. Pareil dans Jean, plus haut, lorsque le Seigneur parle à la femme samaritaine dans ce passage, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, quand on adore, on maîtrise ce qu'on fait, nous. Mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas vos divinités. Certes, vous avez plusieurs coutumes, vous avez une façon de fonctionner, mais au-delà même de votre adoration, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Nous, quand on adore, nous les adorateurs du Père, quand on adore, on sait ce qu'on fait. C'est important de réaliser ce matin que lorsque le Seigneur met à part ses adorateurs, c'est pour qu'il les ait en permanence. Que Dieu ait des adorateurs en permanence. Pour avoir, un, une intimité avec lui, pour dévoiler le secret de son cœur, parce que c'est dans l'adoration qu'on découvre qui est Dieu, on comprend le fonctionnement de Dieu, on comprend la mentalité que Dieu veut nous communiquer, à nous qui sommes hommes spirituels, mais aussi on reçoit quelque chose du Seigneur, lorsqu'on est en contact, en communion avec lui, et à notre tour, on offre à Dieu. Autre chose, c'est que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est vrai que lorsque on prie, on passe du temps dans la louange, dans l'adoration, et lorsque le conducteur nous invite à pouvoir élever notre voix pour bénir le Seigneur, souvent on entend cette prière, « Seigneur, tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. » Mais souvent, on ne comprend pas ce que c'est qu'en esprit et en vérité. Surtout esprit, parce que c'est tellement bizarre, adorer Dieu en esprit, comment est-ce que ça peut se faire? Et la Bible veut nous enseigner dans ce passage qu'adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer avec sincérité, l'adorer de tout notre cœur, que notre dévotion envers lui soit vraiment totale. Je ne l'adore pas avec un cœur partagé. Je reconnais que Dieu est non seulement celui-là qui a donné Jésus pour moi. Donc je ne m'arrête pas à cette dimension de Jésus qui est sauveur, non. Je vais plus loin, je reconnais qu'il est le Seigneur de ma vie. Alors je lui donne tout. J'exprime à Dieu les paroles qui viennent du plus profond de mon cœur. Ça c'est la véritable adoration. Et ça c'est adorer Dieu en esprit. C'est bien d'adorer Dieu en esprit. Seulement c'est comme une première dimension. Pourquoi? Parce qu'on est, d'abord esprit. Et c'est normal qu'on adore d'abord en esprit. C'est la première dimension de l'adoration. Seulement l'adoration en esprit se passe dans notre cœur. Et la Bible déclare que l'homme regarde à ce qui frappe, les yeux. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et quand Dieu regarde au cœur, il sait quelle est l'adoration qu'on peut lui offrir dans notre cœur. Dans notre esprit, ce qui se passe dans notre esprit. L'homme n'est pas capable de saisir ce qui se passe dans l'esprit d'une autre personne parce que Dieu voit et sonde les profondeurs du cœur. Et il y en a souvent malheureusement qui s'arrêtent à cette dimension de l'adoration. Seulement la Bible parle de deux dimensions, en esprit et en vérité. Et en vérité, c'est le fait d'être en conformité avec ce qui sort de notre bouche. La Bible déclare dans le psaume, le psalmiste déclare que ma parole n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Donc il n'y a pas de décalage. La Bible dit dans ce psaume que lorsque tu sondes mon cœur, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de décalage entre ce que je pense et ce que je vis. C'est ça, adorer Dieu en vérité. Et il y en a souvent qui se disent, bon, c'est pas grave. On n'a pas besoin de trop forcer avec le Seigneur. Vous êtes très zélé pour Dieu. Et tout, vous êtes tout le temps en réunion, vous êtes assidus. C'est pas la peine de me forcer la main parce que Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur. Ben oui, heureusement encore que Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est lui qui regarde au cœur. Et malheureusement, trop souvent, Dieu trouve des choses bizarres dans nos cœurs. Des choses qui ne sont pas en conformité avec sa parole. Quand bien même il y en a qui se disent que je suis en paix avec le Seigneur, c'est pas que vous êtes en paix avec le Seigneur, non. C'est que vous vous êtes conformé à votre façon de vivre. Vous êtes accoutumé. Notre âme est tellement habituée à plusieurs travers qu'on a l'impression qu'on est en paix. Le Saint-Esprit ne nous reproche de rien. Non, on a tué la voix de notre conscience. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être en paix. Et adorer Dieu en vérité, c'est vrai, c'est le fait d'avoir une foi authentique. Je démontre par mes actes que j'aime Dieu passionnément. Ce n'est pas possible d'adorer Dieu simplement en esprit. Ce n'est pas possible. Parce que les deux vont de pair. Ce n'est pas possible de dire que j'adore Dieu, ça se passe dans mon cœur, donc ce n'est pas la peine. On n'a pas besoin de trop en faire. Non. Il y a un décalage entre ce qui se passe. Ça bouillonne dans notre cœur quand on aime le Seigneur. On est obligé de le manifester. Les vrais adorateurs sont obligés de le manifester, de manifester leur passion pour le Seigneur. Et si vous vous rendez compte ce matin que vous aimez Dieu en esprit, tout se passe dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de le manifester, il y a un problème. Votre adoration n'est pas vraie. Il manque cette dimension vraie, en vérité. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, il y a deux termes dans l'Ancien Testament qui nous parlent de l'adoration. Je ne vais pas vous le prononcer en hébreu. Le premier, c'est Chacha. À chaque fois qu'il y a un terme hébreu qui a H à la fin, il y a un petit soupir qu'il faut rajouter. C'est un peu comme l'arabe. Et comme ils sont tous les enfants d'Abraham, là, ça se ressemble. Quand vous dites Chacha, vous devez prononcer le H dans la gorge. Je ne vais pas vous le faire. Alors, c'est un terme qui signifie se courber, se prosterner. C'est un terme qu'on rencontre dans l'Ancien Testament lorsqu'on parle d'adoration. Se courber, se prosterner. Et le deuxième terme qu'on rencontre dans l'ancienne alliance, c'est Aboda. Essayez de le faire pour voir. Non, il y a le H là qui doit ressortir. Alléluia. Alors ce terme signifie servir un supérieur. Alors en plus de se courber, il y a le fait de servir. Et il y a deux autres termes dans le Nouveau Testament cette fois-ci qui parlent toujours d'adoration. Le premier c'est proxcuneo, qui signifie se prosterner face contre terre. Donc je me prosterne la face contre terre. Et le deuxième est liturgia, qui signifie servir. Et on retrouve toujours cette double dimension, en esprit et en vérité. Donc je dis que j'adore le Seigneur, oui, certes, je me prosterne. Il y a cette notion de se prosterner. Donc le fait de dire que j'adore Dieu, oui, mais j'implique mon corps. Donc celui qui est en face de moi se rend compte que j'adore Dieu par le fait que je ploie les genoux devant lui. J'implique mon corps dans cet acte. Donc il y a la dimension spirituelle, il y a le fait de servir. Dans mon cœur, je suis engagé et je sers. Je sers. Je sers, mais aussi je me courbe. Le fait de se courber, c'est démontrer que je témoigne du respect envers la personne qui se trouve en face de moi. Et donc l'adoration, c'est manifester notre respect pour le Seigneur, manifester notre dévouement dans le service. C'est-à-dire que j'adore Dieu en esprit, oui, c'est vrai, mais je l'adore aussi en vérité. Alors, il y a des choses qui se passent dans mon cœur. Donc, je prie, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, oui. Tout ça, c'est bien, mais comment est-ce que je le manifeste? Donc, je manifeste la deuxième dimension en vérité, en servant le Seigneur. Et j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette première partie, qui est le fait de servir Dieu en esprit. Lorsqu'on sert Dieu en esprit, la première chose que j'aimerais mettre en évidence se trouve dans le passage de Romains 12, les versets 1 à 2. La Bible déclare dans ce passage, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsqu'on adore Dieu en esprit, dans ce passage, la Bible nous enseigne qu'on offre nos corps, notre corps, comme un sacrifice vivant. C'est un sacrifice qui est vivant, saint et agréable à Dieu. C'est un acte de consécration. C'est-à-dire que je donne ma vie au Seigneur, je m'abandonne à lui totalement, je dis à Dieu que désormais je dépends entièrement de toi. Je t'offre non seulement mon esprit, certes, mais je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice, c'est quelque chose qu'on tue. Il est mort. Mais la Bible dit que ce sacrifice qu'on offre, certes, sur le plan humain, on le tue. Oui, je meurs dans mes passions, je meurs dans mes désirs, mais la Bible, par son autorité, la parole de Dieu nous enseigne que c'est en mourant que le Seigneur nous ressuscite. C'est à cause de cela que notre sacrifice est vivant. Alléluia. On le met sur l'autel, on apporte à Dieu tout ce qu'on a comme passion, et on dit à Dieu, Seigneur, désormais tu prends le contrôle de ma vie. Désormais c'est toi qui contrôles mes pensées, ma façon de parler, ma façon de réagir, ma façon de penser. Désormais, je consacre toutes ces choses à toi. Tu en prends le contrôle. Alors, c'est un sacrifice vivant, saint et agréable. On se sépare du péché sous toutes ses formes. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, non. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas d'intermédiaire, de péché intermédiaire, non. Il y a le péché et c'est tout. Alors, je me sépare du péché sous toutes ses formes. C'est ça, adorer Dieu en esprit. Et il y a des péchés, évidemment, qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui se passent dans nos vies qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, qui ne sont pas visibles aux yeux des hommes. C'est pour ça qu'on parle d'adorer Dieu en esprit. Donc, on se sépare parfois de certaines choses qui ne sont pas pour certains des péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ne les voient pas. C'est pourquoi c'est important de se séparer du péché sous toutes ses formes. Pourquoi? Parce qu'il peut constituer un blocage dans notre adoration. On peut se dire que non, le frère ne le voit pas, ce n'est pas grave, ils ne sont pas là ce matin. C'est le dimanche qu'on se voit à l'église. Donc ce que je fais à la maison, ce que je fais sur mon lieu de travail, etc., ils ne le voient pas, donc ce n'est pas grave. Non. La Bible parle de vrais adorateurs, les vrais. Ça veut dire que dans l'église, on peut trouver de faux adorateurs. On peut dire tout haut qu'on adore Dieu, mais on n'est pas forcément un vrai adorateur. Et le but ce matin, c'est que tous, on parvienne à ce statut de vrai adorateur. Alléluia. Je ne vis plus dans la chair, je grandis en maturité. Et je ne vais pas revenir sur les études bibliques qu'on a fait ces deux dernières semaines. Et j'encourage vraiment tout le monde à venir aux réunions du vendredi soir, parce que c'est là que le Seigneur nous aide à construire notre foi. Lorsqu'on a ces études bibliques, je vous assure qu'on passe du temps dans la parole de Dieu. Ce matin, on ne peut pas prendre 2 heures pour méditer la parole de Dieu. Alors, le vendredi soir, le Seigneur nous a donné un cadre pour pouvoir le faire. Alors, je vous encourage, bien-aimés, à pouvoir vous déplacer, faire l'effort d'être là le vendredi soir et comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et ces deux dernières semaines, on a parlé de maturité. Et on s'est rendu compte que la maturité, souvent, il y en a qui disent qu'ils sont matures, mais comme je disais dans notre équipe, la maturité, ce n'est pas un sac où on a tout dedans. Non. On peut être mature dans un domaine et pas dans un autre. Et durant toute cette étude, le Seigneur a mis le doigt sur plusieurs aspects de notre vie pour qu'on puisse grandir dans ces différents domaines. Alléluia. Pour qu'on soit mature en toutes choses. Pour pouvoir adorer Dieu en esprit. Et dire, c'est vrai, je suis un adorateur qui adore Dieu en esprit. Mon caractère est transformé. Ma façon d'aimer est transformée. Pourquoi? Parce que le Seigneur a lavé. Il m'a épuré. Il m'a aidé à me séparer de tout ce qui n'était pas digne de lui. Alléluia. Le deuxième aspect de l'adoration en esprit que j'aimerais mettre en évidence ce matin se trouve dans le passage d'un Corinthiens 11. Et c'est un passage qu'on lit souvent lorsqu'on passe à la table du Seigneur. Pour pouvoir poser cet acte que le Seigneur Jésus nous a demandé de faire toutes les fois que nous nous retrouvons, celui de la Sainte Cène. La Sainte Cène est un acte d'adoration. Et ce matin, comme la sœur pouvait encore le dire, ce n'est pas un acte religieux où on le fait, le rituel, chaque dimanche matin. J'élève ma voix pour dire au Seigneur, oui, je reconnais que tu es mort pour nous, alors je prends ce pain en mémoire de toi. Ce n'est pas un acte religieux. C'est réellement un acte d'adoration. Et dans ce passage d'un Corinthiens 11, à partir du verset 24, la Bible déclare, et après avoir rendu grâce, le rompit. Je vais lire à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. La Bible dit dans le verset 24, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et au verset 26, toutes les fois que vous le faites, vous annoncez la mort du Seigneur. Et toutes les fois qu'on pose cet acte de la Sainte Cène, on annonce, on revient sur la mort du Seigneur. Et pendant que je préparais cet enseignement, ça m'a un peu intrigué, je n'avais pas fait attention sur la mort. Vous annoncez la mort du Seigneur. Pourtant, il est ressuscité. La Bible dit, vous annoncez la mort. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous le ferez, vous annoncez la mort. Il est déjà mort, mais vous annoncez encore la mort du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert. La Bible déclare qu'il a souffert une fois et une fois pour toutes. La Sainte Cène est un acte spirituel. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que lorsqu'on s'approche de ce temps particulier, qu'on se souvienne que Jésus est mort. Qu'on se souvienne qu'un jour, il a quitté sa gloire. Qu'on se souvienne qu'un jour, il a décidé de quitter son trône où il recevait l'adoration. Qu'on se souvienne que le Père s'est séparé de son Fils pour nos vies. Le Père veut qu'on réalise qu'il a souffert. Pas qu'il est ressuscité, non. Le Père veut qu'on réalise qu'il a souffert. Et que lorsqu'on s'approche de cette table, on doit prendre garde. Toutes les fois qu'on s'approche de cette table, la Bible dit qu'il faudrait qu'on s'examine soi-même. Pourquoi? Parce que toutes les fois qu'on prend cette coupe et ce pain, sans discerner le corps du Seigneur, sans prêter attention à ce qui s'est passé à la croix, c'est comme si on foule aux pieds tout ce que Jésus a fait. Alors toutes les fois qu'on vient dans le péché pour pouvoir prendre cette table, on est dans une situation de péché et ça ne nous dérange pas. Et on prend quand même ce repas. C'est comme si on était en train de dire à Dieu que ce n'est pas grave. Ce que tu as fait ne compte pas. C'est pourquoi ils disent qu'on se souvienne de sa mort. On annonce sa mort, pas sa résurrection. On annonce sa mort. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui s'attardent sur la forme de la Sainte Cène. Que ça ne soit pas un blocage. Le pain levé, le pain sans levain. Il y en a par exemple qui disent qu'ils ne prendront pas la Sainte Cène parce que le pain est levé. Ce n'est pas là le message de la Sainte Cène. Le message de la Sainte Cène, c'est qu'on se souvienne que Jésus a souffert. Qu'on se souvienne que toutes les fois qu'on s'approche, qu'on pense à Dieu sur son trône, en train de se séparer de son Fils. Qu'on se souvienne de la croix. Quand Jésus se sentait tellement seul, pour la première fois, il dit à son Père, « Tu m'as abandonné. » Il s'est senti seul pour la première fois. Il est mort. Au-delà du fait qu'il était en train de souffrir avec les coups, il était en train de souffrir, il y en avait qui continuaient à crier. Et même quand on l'a livré, il y en a qui ont dit, quand il fallait choisir entre un brigand, j'insiste bien sur le terme, un brigand et Jésus, il y a des hommes qui ont crié très fort, c'est pas grave, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il y avait une telle rage contre la personne de Jésus, il fallait en finir. Et le Père veut que toutes les fois qu'on s'approche de la table du Seigneur, qu'on se souvienne de ces moments-là, il a souffert. Et quand je m'approche de ces temps, et je dis au Seigneur, quand je réalise ces choses, je dis à Dieu, mais en fait, je ne t'ai pas digne. Et aujourd'hui non plus, je ne suis pas digne. C'est pourquoi lorsque j'adore Dieu en esprit par la Sainte Cène, je dis au Seigneur que je t'offre ma vie. Je reconnais que ce que tu as fait est vraiment grand. Ce que tu as fait est grand. Et aujourd'hui, je me demande si mes parents sont capables de mourir pour moi. Ce n'est pas évident de livrer sa vie pour une autre personne. Surtout pour quelqu'un qui vous crache dessus. Pendant qu'on était en train de le clouer, il y en avait qui criaient, qui crachaient sur lui. Il a quand même eu toute la puissance, toute la force dans son amour pour dire au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y en a qui ont dit bien avant, c'est pas grave que son sang retombe non seulement sur nous, mais sur nos enfants. Il a dit au Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est que cet acte était tellement fort qu'il y a quelqu'un en face qui a dit à un moment donné, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Finalement, c'était le Fils de Dieu. Personne n'est jamais mort comme ça. Et Dieu veut que lorsqu'on pense au fait d'être un adorateur qui adore Dieu en esprit, on pense à ce temps-là. Quand Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de moi. Qu'on annonce la mort du Seigneur. Toutes les fois qu'on fait cet acte, on annonce qu'il est mort. Pas qu'il est ressuscité, on annonce qu'il est mort, qu'il a souffert. Que le Père s'est séparé de lui. Dans sa sainteté, le Père ne pouvait pas être à côté de Jésus. Il portait tout le péché de l'humanité. Et là, Jésus se rend compte que le Père l'a abandonné. Et il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que c'était tellement dur. Ce qui fait que, comme la Bible dit, lorsqu'on pêche, on crucifie à nouveau la personne de Jésus. On crucifie, c'est comme si on disait au Seigneur qu'il faut que tu repartes encore à la croix. Tu n'as pas tout à fait accompli ton travail. On crucifie à nouveau le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans ce passage d'un Corinthien que celui qui mange de ce pain et boit de cette coupe sans discerner le corps, il s'attire un jugement contre lui-même. Parce que l'acte que Dieu a posé à notre égard a dû mettre en jeu son Fils. On s'attire un jugement. C'est l'acte le plus fort que Dieu ait posé dans tout ce qu'il accomplit envers nous. C'est le plus grand ministère que le Seigneur ait exercé en notre faveur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de faire attention lorsqu'on s'approche de lui par la Sainte Cène. Et quand je dis au Seigneur, j'adore, oui, je t'adore en esprit, je veux réaliser pendant ces temps de Sainte-Cène ce qui s'est passé à la croix. Je ne veux pas rester indifférent. Je ne veux pas que ça soit un acte anodin. C'est pourquoi c'est important d'élever la voix. Lorsqu'on nous demande de prier pour élever la voix pendant ces temps de Sainte-Cène, c'est important de reconnaître ce qui s'est passé à la croix. C'est ça, adorer Dieu en esprit. Seigneur, je reconnais et je t'offre ma vie en retour. Donc, lorsqu'on adore le Seigneur en esprit, Dieu fait une œuvre spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on l'adore en esprit. Dieu fait une œuvre spirituelle dans nos vies. Et la première, c'est que lorsqu'on l'adore, on reconnaît au-dedans de nous, on est capable de plus en plus de discerner la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on l'adore en esprit. Et Dieu, chaque jour, aiguise cet homme spirituel. Il exerce à vivre comme l'image que le Seigneur a prévue pour lui se manifeste. Donc, de plus en plus, dans l'adoration en esprit, je reconnais la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est dans mon esprit que Dieu me parle. Dieu communique avec notre esprit. La deuxième chose, c'est qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Dans cette dimension de l'adoration, Dieu construit notre homme spirituel. Et chaque jour, un peu plus, nous ressemblons au-dedans de nous au Seigneur Jésus. Chaque jour, un peu plus, nous devenons des hommes faits, des hommes et des femmes qui sont à l'image de Dieu. Seulement, cette dimension est limitée. Pourquoi? Parce qu'elle va de pair avec la dimension en vérité. Il ne suffit pas d'adorer Dieu en esprit, il me faut l'adorer en vérité. En esprit et en vérité, c'est ce que ce passage de Jean nous dit. Et la première chose, lorsque j'adore Dieu en vérité, comme on l'a vu, notre foi est authentique, je manifeste aux yeux des hommes ce qui se passe dans mon cœur pour le Seigneur. Alors la première chose, c'est que je m'investis dans le service et dans la vie des frères et sœurs. Souvenez-vous que lorsqu'on a vu la définition du terme adorateur, il était question de la dimension de service. Et la Bible déclare dans Matthieu 4 au verset 10, c'est Jésus qui parle et il dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il y a des versions qui disent, « À lui seul, tu rendras un culte. » Lui second dit, « Tu le serviras lui seul. » Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lorsque je dis adorer le Seigneur en vérité, je m'investis dans le service et dans la vie de mes frères. Et c'est ainsi que je manifeste dans le service religieux, parce que le service, on le fait. C'est la religion qui nous a vraiment enseigné ce que c'est que le service. Le fait d'être aux soins dans la maison du Seigneur, d'être à côté de nos frères quand ils en ont besoin. Le dimanche, par exemple, on voit des personnes qui sont à l'accueil. En semaine, on ne le voit pas, mais il y a des personnes qui prennent soin de ce local, qui travaillent de sorte qu'on soit confortablement assis. Il y a des chantres qui sont en service tous les dimanches matins. Il y a des frères et sœurs qui assure le service de la Sainte-Cène dont on parlait tout à l'heure. C'est ça le service. Servir le Seigneur. Faire le service religieux. L'office. on est chacun dans notre office. Pourquoi? Parce qu'on manifeste l'amour qu'on éprouve pour notre Seigneur. On le manifeste dans chacun dans notre appel. J'ai des talents pour l'accueil, et bien je sers le Seigneur au niveau de l'accueil. Et c'est pourquoi lorsque on a parlé de la définition de, dans le Nouveau Testament de l'adoration, on a parlé de ce terme, liturgia. Il y a un terme qui s'apparente à celui-ci qui fait référence au diaconat, le fait de servir. Et on voit dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, lorsqu'on a établi, à un moment donné, les apôtres étaient débordés par le service, ils n'arrivaient plus à combiner en même temps le fait de prier, d'enseigner la parole et de servir aux tables. On a choisi des personnes. La Bible dit des hommes et des femmes remplis de l'Esprit pour pouvoir servir aux tables. En d'autres termes, c'était des gens qui avaient une dimension spirituelle, qui avaient la dimension spirituelle de l'adoration. Donc, ce n'est pas simplement le fait de savoir avoir un talent. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de tenir une maison, donc je le fais, je nettoie la maison du Seigneur. Non, ils étaient remplis de l'Esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je me mets à servir le Seigneur, quelle que soit la tâche, aussi minime soit-elle, il faudrait que je sois rempli de l'Esprit. Pourquoi? C'est parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons rendre au Seigneur un service agréable. Ce n'est pas par nos propres forces. C'est là le piège quand il y en a qui sont frustrés parce qu'on ne reconnaît pas ce qu'ils font dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à recevoir des éloges. Parce qu'ils le font tellement pour eux, pour qu'on les voit. Et quand l'éloge n'arrive pas, l'éloge ne suit pas, les félicitations ne suivent pas, ils sont vexés. Pourquoi? Parce que la chair se nourrit de la chair. Donc la chair attend la récompense. Il manque la dimension de l'esprit. Et lorsqu'on adore le Seigneur en esprit, en vérité, on témoigne, on manifeste ce qui se passe au-dedans de nous. Mais au préalable, c'est que cette dimension en esprit a transformé notre homme intérieur. Ça fait que lorsque j'adore Dieu en vérité, lorsque je manifeste ma foi authentique, tous les actes que je pose sont vrais. Ils sont sincères. Je n'attends rien en retour. Je n'attends pas qu'on me félicite lorsque j'ai posé un bon acte. Pourquoi? Parce que je le fais d'abord pour mon Seigneur. Si ça bénit un frère, ben c'est tant mieux. C'est l'objectif aussi. La bénédiction, la Bible dit qu'elle enrichit. Elle enrichit. Ça veut dire que c'est quelque chose de permanent. Donc lorsque je suis une source de bénédiction, je peux glorifier le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que je l'adore simplement en vérité. Il y en a qui, lorsqu'ils travaillent au niveau de l'église, ils s'investissent tellement qu'à un moment donné, ils se relâchent. Pourquoi? Parce qu'il manque la force. La Bible dit que celui qui remplit un ministère, quel que soit le service qu'il le fait, qu'il le fasse avec la force, l'onction que Dieu communique. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je peux m'essouffler dans mon service. Pourquoi? Mais parce qu'il me manque la force. Il y en a aujourd'hui, ils sont tellement motivés, ils viennent à l'église une fois, deux fois, trois fois, après ils disparaissent. Après tu dis, oh, depuis quelque temps, je ne vais pas trop bien et tout, donc je me suis retiré un peu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est par ses propres forces qu'il doit le faire. Même quand il faut venir à l'église, c'est par le Saint-Esprit bien-aimé. C'est un acte spirituel. C'est Dieu qui doit mettre en nous les motivations pour venir à l'église. S'il manque de motivation, c'est que quelque part, on a coupé notre relation avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui manque. On n'est plus le vrai adorateur. Et ça se voit simplement sur les actes qu'on pose. Par la suite, les actes qu'on pose ne sont plus des sources de bénédiction, non. Ça éclabousse tout ce qu'on touche. Ça produit l'effet inverse de la bénédiction. Tout à l'heure, on était en train de parler du fait de soutenir la mission. C'est important de soutenir la mission. Lorsque nous nous sommes déplacés il y a quelques semaines pour le Maroc, en partant, on a demandé à l'église, à des personnes qui voulaient nous soutenir et tout, et la sœur Carmen allait de frère en frère pour pouvoir lancer cet appel pour voir s'il y en avait qui avaient à cœur vraiment de nous soutenir pour cette mission. Il y a des moments, elle revenait disant, oh, vraiment c'est dur. Hein? C'est dur, il y en a qui te répondent même bizarrement, pasteur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous à cœur la mission. Quand on comprend ce qui s'est passé à la croix, on comprend pourquoi il y a des gens qui exposent leur vie pour le nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'on est allé au Maroc, on a offert à l'église de Marrakech un don de Bible qu'on avait reçu de la part du frère Armand. Ils étaient tellement touchés. On leur a dit que c'est un frère de l'église qui nous a donné ce lot de Bible pour vous. Ils ont rendu grâce au Seigneur, mais à chaque fois, on était en train de partir, ils étaient là, merci, merci. On ne savait, il n'y avait rien d'extraordinaire pour nous. Rien d'extraordinaire. Dans nos maisons, on trouve 2, 3 Bibles. Il y en a qui sont même contents de collectionner les versions, là. Oui, hein? Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir une Bible. Il y en a qui se déchirent, qui déchirent la Bible pour que chacun ait une page dans ces pays. Que chacun ait une page de la Bible. Et lorsqu'ils ont reçu ce don de Bible, ils étaient tellement contents. Ils ont rendu grâce au Seigneur. Donc on connaît le frère Armand au Maroc maintenant. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'apôtre Paul? Ils ont laissé leurs traces. Ils ont semé dans la vie des gens. Leur foi était authentique. Alléluia. La deuxième dimension, lorsqu'on adore Dieu en vérité, on apporte nos trésors. Et lorsqu'on a lu le passage de Sophonie, la Bible déclare, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Le Seigneur parle de ses adorateurs, ceux-là qui sont vrais. Ils ne font pas qu'adorer en esprit. Leur adoration n'est pas virtuelle, non. Ils apportent des offrandes. Ils apportent des offrandes. Et ce don de Bible avec lequel on s'est déplacé, c'était une offrande. Ils apportent des offrandes. Et lorsqu'on voit ce que les rois mages ont fait lorsqu'ils sont venus adorer le Seigneur Jésus, c'est vraiment un modèle d'offrande. Ils ont apporté de l'or, de la myrrhe, de l'encens pour honorer le roi. C'est-à-dire que la dimension de la personne impose la dimension de l'offrande. David a dit, lorsqu'il voulait acheter le terrain aux frères, hein, pour réparer la faute et tout, David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte. C'est quand même Dieu. Ce n'est pas parce que je suis roi que je vais user de mon pouvoir et dire que je vais prendre ce terrain gratuitement, non. C'est pour le Seigneur que je le fais. Alors je n'offrirai pas au Seigneur quelque chose qui ne me coûte. C'est pourquoi c'est important de ne pas être jaloux des bénédictions des autres. Parce que vous ne comprenez pas les engagements que les uns et les autres prennent avec leur Seigneur. Vous ne savez pas ce qu'ils posent comme acte. Vous ne savez pas les offrandes qu'ils font au Seigneur. Ils n'ont pas besoin de crier sur les toits. Donc quand un frère prospère, n'enviez pas ce frère. Demandez-lui peut-être comment il a fait. Il va vous enseigner les principes. Mais n'enviez pas le frère, parce que lui, il a une alliance avec son Dieu. Et il sait ce qui se passe dans le secret. Il n'a pas besoin de crier ça sur les toits. Donc lorsque j'adore Dieu en vérité, j'amène de mes trésors tout ce qui me coûte, tout ce qui est cher à mes yeux. L'hospitalité, c'est un trésor. Le fait de donner un lit à quelqu'un dans sa maison, c'est quand même mon intimité. C'est chez moi. Donc ça veut dire que je laisse quelqu'un venir comme... c'est comme si la personne vient en fait dans mon intimité. C'est une offrande, bien-aimé. Ça me coûte. Et qu'on aille plus loin que l'argent. Qu'on aille au-delà de l'argent. L'argent, c'est un aspect de l'offrande. Quand on met à part notre bien pour le Seigneur, on bénit le Seigneur, on bénit un frère, c'est une offrande. Et je ne veux pas revenir encore sur l'étude sur les offrandes, les dîmes, etc. Il y a des études bibliques qui sont disponibles pour ceux qui ne l'ont pas. Donc vous pouvez voir la secrétaire de l'église. Elle est où la secrétaire de l'église? Ah ah. Alors, vous pouvez voir la sœur Josie parce qu'elle a des études. Elle va vous donner l'étude sur les dîmes, les offrandes, les dons, les prémices. Il y a des problèmes que Dieu règle facilement le vendredi. Vendredi soir, tu viens avec un problème. Quand tu repars, le problème est réglé. Il est réglé, je vous assure. Quelqu'un m'a dit vendredi, j'ai vu une personne, je lui ai dit, tu voulais me voir pour un entretien et tout, il faut qu'on pose le jour. Elle m'a dit, non, pasteur, c'est bon, l'étude biblique a réglé le problème. Alléluia. La parole de Dieu est véritable, bien-aimé. Il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. Troisième dimension de l'adoration, en vérité, l'évangélisation. Ah, l'évangélisation. Quand on prie pour l'évangélisation, souvent on dit, Seigneur, vraiment, tu es dans ta main, tu touches les cœurs, surtout ces païens-là, ils sont incrédules, vraiment. C'est méchant. Alors, il faut qu'ils se convertissent. Pourquoi? Parce qu'on voit toujours le païen. On occulte tout ce que le Seigneur a fait à la croix et on oublie qu'un jour, on était païen. On était le païen en question. Mais aujourd'hui, on est tellement bien. Hein? En plus, on est sapé tous les dimanches. Alors, lui, il est le méchant. L'évangélisation, c'est un acte authentique qui prouve que j'ai à cœur ce que le Seigneur a comme priorité. La priorité de Dieu, l'une de ses priorités, c'est que les hommes tous parviennent au salut. Et lorsque des gens se mettent à part pour pouvoir parcourir les maisons, risquer de se faire jeter, ce n'est pas parce qu'ils veulent être les meilleurs, ce n'est pas parce qu'ils veulent avoir la meilleure église pleine, non, c'est parce qu'ils ont à cœur de voir des vies sauvées. Jésus s'est dépouillé de sa gloire, il s'est humilié, il s'est rabaissé pour pouvoir faire comprendre à l'homme qu'il est une perle, qu'il compte aux yeux de Dieu. Alors, si on n'a pas encore cette dimension de l'adoration, c'est important de comprendre pour que Dieu nous communique cette priorité qu'il a dans son cœur. Et l'évangélisation, ce n'est pas simplement le fait de faire une croisade et annoncer l'évangile, prêcher très fort, que Jésus vous aime, etc. Non, c'est manifester l'authenticité de notre foi dans notre témoignage. Quel est le témoignage que j'ai sur mon lieu de travail? Quel est le témoignage que j'ai dans mes études? Est-ce que je suis un bon étudiant pour mes professeurs? Est-ce que je suis un bon travailleur? Est-ce que ma façon de parler est un témoignage? Est-ce que je suis un sacrifice, donc mort, vivant? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un, la personne peut dire oui, franchement, c'est un modèle dans la société? On peut compter sur cette personne. C'est un exemple à suivre. Est-ce qu'on peut dire de telles choses de nous? La semaine dernière, j'étais en train de parler avec la maîtresse de Jora. Ça faisait longtemps que je l'avais vue. Et lorsque je suis arrivée, elle me dit, ça s'est bien passé au Maroc, parce qu'elle, elle est au courant de tout. Avec Jora, c'est bon. Hein? J'ai dit oui. Elle dit, Jora m'a dit que vous êtes partie pour le pasteur. J'ai dit, pour le pasteur? J'ai dit, non, c'est moi le pasteur. Je ne suis pas partie pour le pasteur. Elle dit, ah oui, je dis oui, en dehors de travailler la poste, la banque, etc. On est pasteur, nous. Elle dit, ah oui. Je lui expliquais ce qu'on faisait comme travail. Elle dit, ah oui. Non, franchement, vous travaillez. Vous travaillez bien. Ce n'est pas comme les prêtres, hein. Vous travaillez bien. Et je vous assure, chaque jour, je prie pour cette femme. Et j'ai dit au Seigneur, vraiment, cette femme-là va donner son cœur au Seigneur Jésus. À chaque fois que j'arrive, elle me tient pour parler, et elle raconte des choses, je dis parfois, mais enfin, c'est comme une copine, quoi. La maîtresse à Jora. Elle sait que Jora chante, elle connaît tout là sur le gospel, l'église et tout. Je dis, vous viendrez à l'église. Et ça, je sais que je vais l'inviter à l'église. Parce que c'est son temps, c'est sa saison. Le Seigneur veut nous partager ce fardeau pour les âmes. Pourquoi? Parce que sans qu'ils ne le sachent, ils ont besoin du Seigneur Jésus. Et si on n'a pas réalisé qu'ils ont besoin du Seigneur, notre foi n'est pas authentique. On ne témoigne pas aux hommes ce qu'on a reçu de Dieu. Au lieu d'être vrai, c'est-à-dire que dans mon cœur, je reconnais que Jésus est sauveur, je vis ma foi, mais à l'intérieur de moi. Il ne faut pas qu'ils sachent que je suis chrétien, non. Ce sont les idiots qui vont à l'église, ce sont les... Donc il y a toutes les étiquettes là, et on a honte d'être chrétien. Ce sont les gens qui ont des problèmes qui vont à l'église. Pourquoi? Parce que le gars te voit tout le temps, tu es en permanence en train de te plaindre. Quand il se plaint de son quotidien, toi aussi tu te plains. C'est comme si c'était même un concours. Quelqu'un qui arrive ne sait même pas qui est chrétien au milieu de vous en fait. Pourquoi? Parce que vous avez tous les mêmes problèmes. et surtout que vous les gérez de la même façon. Notre témoignage est indispensable dans l'évangélisation. Pourquoi? Parce que par notre témoignage, on manifeste notre adoration. Elle est authentique. Elle est authentique. Les gens cherchent souvent les grands versets quand ils veulent parler du Seigneur. Mais parle de ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça l'évangile. Je dis aux gens ce qu'il a fait pour moi. C'est ça qui sera efficace. Parce que la Bible, il ne sait pas ce qu'il y a dans la Bible. Pour lui, ce n'est même pas la peine. Il ne faut pas lui parler de la Bible. Il n'en a pas besoin. Mais ta vie, oui. Il a vu que tu as changé et il veut savoir pourquoi. Ça, c'est authentique. Ça, c'est la vérité. Et c'est un acte d'adoration. Alléluia. Le dernier principe que j'aimerais partager, c'est le fait de prendre soin de son épouse, son époux, ses enfants, ses proches et d'une façon générale, la famille. La famille est la cellule de l'Église. Plus les familles sont fortes, plus l'Église sera forte. Et le diable a compris ce mystère. La seule chose que le Seigneur nous a laissée pour comprendre ce que c'est que le mariage, il dit à l'homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que si tu veux savoir comment aimer ton conjoint, pense simplement à ce que Jésus a fait. Il allait jusqu'à mourir. Il s'est donné entièrement. Entièrement. Sans réserve. La famille a du prix aux yeux de Dieu. Si vous êtes dans l'église sans votre conjoint, persévérez dans la prière, bien-aimé. La famille a du prix aux yeux de Dieu. Il y en a parfois qui mettent en danger leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans leur dimension spirituelle. Hein? Dieu est tellement bon. Il est tellement merveilleux qu'on n'a plus le temps de prendre soin des siens. Que non, ils sont païens, c'est bon. Nous, on est des chrétiens, c'est bon. La famille a besoin de vous vous couper totalement de votre famille. Vous n'en prenez pas soin. Quel témoignage vous êtes dans votre famille? Quel témoignage vous êtes pour vos parents? Quel témoignage vous êtes pour vos enfants? Est-ce que vous êtes des modèles pour vos enfants aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un modèle pour votre enfant? Est-ce qu'aujourd'hui votre enfant peut dire que oui, moi je veux être comme papa, je veux être comme maman, ou je veux être comme le tonton? Lorsque le Seigneur parle de la famille, dans 1 Timothée 5:8, la Bible déclare, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. L'infidèle, on sait comment il est, mais pire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la Bible veut dire, sincèrement. Parce qu'infidèle, on sait. On connaît les païens bien-aimés, mais si on est pire que les païens, là, je ne sais plus. Pourtant, ça existe, si la Bible le dit. Il y en a qui ne prennent pas du temps pour leur famille. Il y en a qui n'ont pas dans leur cœur la priorité de la famille, non. Mais c'est la première église. C'est la première église sur terre. C'est la première église. Donc c'est bien beau d'être à fond dans l'église ou à fond dans son travail, dans ses études. Si vous ne prenez pas soin de votre famille, la Bible dit que vous êtes pire. Pire que les infidèles. Donc que chacun cherche ce que c'est pire que les infidèles. Mais que Dieu nous aide. Alléluia. Par-dessus toutes choses, le Seigneur veut qu'on consacre notre temps. Et il y a un psaume merveilleux qui dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je voudrais habiter. Je demande à l'Éternel une chose. C'est tout ce que je te demande ce matin, Seigneur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, dans ta présence, Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous donnera la capacité d'être un véritable adorateur. Parce qu'il y a une guerre d'adoration. Le diable cherche des adorateurs. Il y en a qui passent du temps devant le foot. Il y en a qui passent du temps devant la télévision. Il y en a qui préfèrent leur travail à prendre un temps pour méditer la parole de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Que ça crée une soif ce matin dans nos cœurs. Que mon adoration soit vraie, Seigneur. Que je mette un temps à part pour mon Seigneur. Que je mette du temps à part pour Dieu. Adorer de façon authentique. C'est-à-dire que je prends dans mes priorités, j'essaye de faire le point sur mes priorités. Et je dis, est-ce que véritablement, ça c'est important pour ma vie? En quoi est-ce que ça m'aide à construire ma vie? En quoi est-ce que le fait de passer 5 heures de temps devant la télévision m'aide à construire ma vie? En quoi est-ce que le fait d'aller avec des amis, le fait d'aller pour le foot, ce qui est pourtant bien, mais quand ça prend la place de Dieu dans notre vie, là c'est plus normal. Je voudrais habiter dans ta maison. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Et il veut qu'on mesure le niveau de notre adoration. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble, on va prier. Pendant que j'étais en train de prier pour cet enseignement, le Seigneur était en train de m'interpeller sur ce que c'est que l'idolâtrie. Et je cherchais dans le dictionnaire. Et le Larousse définit l'idole comme étant une représentation d'une divinité. Une image statique. La représentation d'une divinité. Et souvent les chrétiens pensent qu'ils ne sont pas idolâtres. Lorsque le Seigneur parle aux enfants d'Israël, il s'adresse aux enfants d'Israël quand il parle de l'idolâtrie. Qu'il n'y ait pas d'idole au milieu de vous. Il ne s'adresse pas au peuple étranger. Il ne s'adresse pas, en d'autres termes, aux païens. Il dit aux chrétiens qu'il n'y ait pas d'idole au milieu de toi. Pourquoi? Parce que l'idole, c'est une représentation, la représentation qu'on se fait d'une divinité. C'est-à-dire que je donne une forme à la divinité. Et lorsque le Seigneur était en train d'attirer mon attention sur cet enseignement, le Seigneur était en train de me mettre à l'esprit que de plus en plus les chrétiens sont en train de faire de Dieu une idole. C'est même pas normal quand on dit que le Seigneur est mon idole. Non, parce que c'est la représentation d'une divinité. On donne à Dieu une image statique. Pourquoi? Parce qu'un jour on a connu Dieu comme étant Dieu tout-puissant et on s'est arrêté là. On ne cherche plus le Seigneur. On ne va pas plus loin que ça. Notre adoration ne grandit plus. Donc chaque fois qu'on parle de Dieu, on pense toujours à cette image qu'on a faite de lui. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est plus le quotidien. Et de plus en plus, on ne grandit plus dans notre adoration et on fait de Dieu une idole. Alors ce matin, le Seigneur nous interpelle et il veut qu'on mesure le niveau de notre adoration. Et un passage de l'Apocalypse 19:10 qui dit « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. » Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Adore Dieu. Le dernier livre de la parole de Dieu nous encourage ce matin. Adore Dieu. Tu veux mesurer le niveau de ton adoration ce matin? Adore Dieu. Nous allons tous ensemble prier et demander à Dieu de nous aider à l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Élève ta voix, bien-aimé, et adore Dieu. Ce matin, dis au Seigneur, que le niveau de mon adoration je veux mieux te connaître, Seigneur. Je demande à l'Éternel une chose, une seule chose ce matin, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence, être cet adorateur vrai, sincère. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai manqué à cet appel. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que je n'ai pas été un adorateur authentique. Pour toutes les fois que j'ai voulu simplement être un adorateur qui t'adore en esprit et pas en vérité. Ou encore en vérité peut-être, par les actes, par le service. Seigneur, poser des actes dans ta maison sans pour autant être consacré à toi. Je te demande pardon ce matin, Seigneur. Que le sang de Jésus vienne nous purifier, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu es, Seigneur. Donne-nous de découvrir ta personne chaque jour et ne pas faire de toi une idole, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit honoré. Sois béni, Père, pour tout ce que tu vas faire, pour la dimension d'adoration qui va être transformée dans nos vies, Seigneur. Sois béni pour la dimension de l'adoration qui change dans cette église, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré, Seigneur, parce que tu vas nous amener plus loin avec toi. Gloire et honneur te reviennent à toi seul. Gloire à toi, Seigneur, qui es seul digne de recevoir cette adoration. Nous voulons être comme tu le déclares dans ta parole, dans ce livre de Sophonie. Nous voulons être tes adorateurs, les vrais, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.